Bonjour, nouveau format Flash avec une actualité qui cette fois-ci va nous permettre de parler de l'évolution du clivage à droite, puisqu'on a parlé pas mal du clivage à gauche ces derniers temps avec l'écologisme, notamment la vidéo que j'ai fait sur la probable fin de l'écologisme politique, en tout cas sa disparition comme candidat à l'hégémonie à gauche. Et aujourd'hui, je voudrais parler développer en tout cas ce que j'ai dit sur X hier en réponse à ce tweet de Tristan Mendès France qui commentait la manifestation qui s'est tenue le 16 mai à Londres sous l'égide de Tommy Robinson. Manifestation identitaire donc qui a rassemblé beaucoup de monde et dont il a dit Tommy Robinson que ça avait été possible à remercier au cours de son discours mécène américain qui s'appelle Andy Miller et qui lui aurait donné 200 000 dollars. Et donc Tristan Mendès France a cette remarque, il dit patriote à la solde de l'étranger. Et vous remarquerez que c'est effectivement souvent, et en particulier on va dire l'avènement du Trumpisme, et notamment le deuxième Trump, avec toutes les mentions qui ont été faites à la fois par le département d'État américain et les affirmations de nouvelles politiques, notamment en direction de l'Europe de la part des États-Unis, avec notamment les démarches d'Elon Musk à l'endroit de l'AFD et à l'encontre de Keir Starmer au Royaume-Uni. Ça a été souvent de dire, bah, regardez ces fameux patriotes, en fait, ils sont toujours à la solde d'agents étrangers. En faisant comme si cet argument devait porter, comme si ça pointait une contradiction et qu'en fait, donc, ces gens n'avaient aucune crédibilité puisque ils ont recours au soutien étranger. Alors, il y a eu historiquement une tendance, peut-être, effectivement, de certains groupes nationalistes à aller chercher un financement à l'étranger. Donc, ce qui se fait actuellement s'y rattache de manière générale. De toute façon, c'est pas propre à la droite. La gauche le faisait aussi à l'époque du Parti communiste et de l'International communiste. Ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est que le commentaire de Tristan Mendès-France, à mon sens, passe à côté d'une évolution fondamentale, justement, du patriotisme et notamment de ce mouvement qu'on appelle l'identitarisme à l'échelle de l'Europe et de l'Occident en général. C'est-à-dire que il continue à faire comme si on était dans l'ancien schéma dans lequel on pouvait imaginer que les patriotes, les nationalistes dans un pays européen, par exemple, par définition, devaient strictement défendre l'intérêt national, y compris contre l'intérêt des pays voisins, et donc ne pouvaient pas, sans se contredire fondamentalement, aller chercher du soutien dans les pays voisins. Et je pense que continuer à invoquer cet argument comme une contradiction interne du discours nationaliste est une erreur à l'ère de l'identitarisme. Parce que l'identitarisme, précisément, c'est le passage de l'européisme et d'une certaine manière de l'internationalisme, jadis socialiste et communiste, avec justement les grandes organisations internationales. C'est le passage de ça, de la gauche vers la droite. Et naturellement, c'est une chose que j'explique depuis des années, on en parlait dans le bouquin sur le clivage, même mes tout premiers articles sur Contrepoint l'indiquaient. L'internationalisme, tout comme le reste, est destiné à passer de la gauche à la droite, et en passant de la gauche à la droite, forcément, il se replie. Ça devient un internationalisme, on va dire, de conservation, et non plus d'expansion, de diffusion de messages comme pouvait l'être l'international socialiste. Et donc, à travers la construction européenne, à travers l'intégration occidentale, parce que la construction européenne elle-même n'est qu'une partie de l'intégration plus large de ce bloc occidental depuis 1945, en fait, hein, depuis la mise en force politique du lien transatlantique, eh bien, cet identitarisme européen est effectivement devenu transatlantique et devenu transoccidental. C'est-à-dire que les identitaires en Europe, dans n'importe quel pays d'Europe, se retrouvent dans l'identitarisme de leurs voisins parce que, effectivement, l'évolution politique de l'Occident, le fait que l'immigration en Occident devienne principalement extra-occidentale, et donc que ça crée un clivage à l'intérieur où les nouveaux exclus sont les immigrés extra-occidentaux et donc les identitaires et les déclassés sont généralement la population autochtone, c'est-à-dire les blancs occidentaux, eh bien, ça fait qu'il y a désormais, comme à l'époque du souci de l'international socialiste, il y a désormais une transversalité en fait de l'intérêt de classe d'une certaine manière, de l'intérêt identitaire si vous voulez, des populations blanches ou d'une partie des populations blanches qui se sentent déclassées ou qui se sentent menacées dans son identité à l'intérieur de l'ensemble de l'Occident. C'est-à-dire que quand vous avez un patriote en Europe qui va recevoir de l'argent d'un patriote américain pour défendre son combat, c'est pas juste qu'il va trouver un allié objectif, quelqu'un qui pourrait vouloir du mal à l'Europe pour aller chercher de l'argent. C'est que les deux sont alignés idéologiquement et ont le même projet. Et ont le même projet à la même échelle, c'est-à-dire à l'échelle de l'Occident dans son ensemble. Et tendent à penser que si une lutte doit être faite contre l'immigration, elle ne doit pas être faite seulement en Angleterre ou aux États-Unis ou en France ou en Allemagne, ça doit être fait dans l'ensemble de l'Occident pour défendre l'ensemble de l'Occident. Et donc cet identitarisme, depuis son émergence, depuis 20 ans, a une très forte identité. Souvent, il est enraciné. Et effectivement, il trouve un lien avec le nationalisme traditionnel local, hein, ce qui est le cas donc avec Tony Robinson, mais il se conjugue et il se connecte avec les nationalismes voisins en ne les voyant plus comme des ennemis. Il y a encore quelques frictions, on a vu ces derniers temps des frictions entre nationalistes allemands de l'AFD qui ont l'air de penser que il faudrait reprendre l'Alsace-Lorraine à la France et forcément des Français, mais c'est extrêmement marginal sur les sujets fondamentaux et en particulier le sujet fondamental de nos sociétés modernes qui est devenu encore une fois le sujet structurant du clivage politique, hein, c'est-à-dire l'immigration. L'immigration, si vous êtes pour, vous êtes de gauche, si vous êtes contre, vous êtes de droite. C'est ça maintenant le clivage. Tous les autres clivages sur la redistribution des richesses, etc., peuvent encore vous placer plutôt à gauche ou plutôt à droite, mais ce qui fera à la fin qu'on vous considérera comme une personnalité de gauche ou une personnalité de droite, en réalité, c'est votre rapport à l'immigration. Et donc, cette vision de Tristan Mendès France, en réalité, c'est une vision dépassée. Et il n'y a plus d'idée de patriote à la solde de l'étranger. On pourrait le considérer, et à la limite, j'approuverai cette idée, si, par exemple, c'était la Chine ou un pays d'Amérique du Sud, ou un pays d'Afrique, ou du Moyen-Orient, qui finançait Tommy Robinson. Parce que là, il n'y aurait aucune collusion d'idées, aucune cohérence, et en plus, ce serait des financements qui viendraient de l'extérieur de l'Occident. Donc on comprendrait la contradiction. Mais en réalité, tant que le financement est interne à l'Occident, eh bien, il n'y a absolument aucune raison de penser que c'est la solde de l'étranger. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, d'une certaine manière, il n'y a plus de considération que, justement, l'Amérique, c'est l'étranger. Ce n'est plus ça. Dans la tête des identitaires occidentaux, il n'y a pas de vision de ce que l'identitarisme de ce que les voisins sont des étrangers. Ce sont des cousins, voire des frères, au sein de la même civilisation. Et donc ça dit véritablement quelque chose de cet identitarisme, et encore une fois, c'est quelque chose qui était prévu. C'était prévu par l'évolution normale du clivage politique et les lois du clivage politique. Vous avez finalement ce qui était déjà ce qui avait porté le rêve européaniste des États-Unis d'Europe, etc., et ensuite de l'Union occidentale, qui était le rêve de l'alliance démocratique et de l'alliance des peuples, des droits de l'homme, etc., ça devient, en passant à droite, ça devient l'alliance des peuples identitaires européens, de la race blanche, de la culture chrétienne, toutes ces choses qui sont sorties par ces mouvements-là. Et donc c'est véritablement un glissement de l'internationalisme, en fait, de ce qui était jadis l'internationalisme, de la gauche vers la droite. Il ne pouvait pas y avoir d'internationalisme fasciste, véritablement, où ça a toujours été extrêmement contradictoire à l'époque. À l'époque où il y avait l'internationaliste communiste, dans les années 30-40, parce que le fascisme restait quelque chose de profondément nationaliste et éventuellement contre les intérêts des voisins. C'était extrêmement net. Même l'alliance entre Mussolini et Hitler, finalement, s'est faite relativement tardivement. Si vous remontez à 1934, je rappelle que Mussolini avait fait avancer ses troupes à la frontière de l'Autriche pour prévenir une Anschluss allemande. Hein. Donc il y avait une méfiance à cette époque-là, parce qu'on était sur des vrais soucis nationalistes et préoccupations nationalistes avant tout. Il n'était pas question de faire une grande Europe, par exemple. C'est une idée qui est venue un petit peu après et qui a surtout d'abord été utilisée comme outil de propagande à l'encontre du bolchevisme et pour essayer, pour l'Allemagne, de susciter finalement l'engouement et le soutien de la population européenne, ce qui n'a pas suffi d'ailleurs, parce que majoritairement la population européenne est restée dans les pays occupés, hostile à l'occupation allemande. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de différent. Aujourd'hui, on est dans un système où il y a eu une homogénéisation finalement, une intégration suffisante qui s'est faite en Occident pour que désormais, à cette échelle-là, il ne soit plus contradictoire finalement d'être un patriote nationaliste britannique et un nationaliste occidental, et même les deux ont tendance de plus en plus à converger, et on le voit dans tous les pays. Hein. On le voit aussi de plus en plus en France, où l'idée souverainiste et le Frexit, par exemple, diminue de plus en plus au profit d'une vision, au contraire, d'une transformation de l'Europe elle-même qui aille dans le sens des idées nationalistes plutôt que le contraire. Et on le voit avec, j'en ai parlé récemment notamment dans ma vidéo sur Orban, avec le basculement progressif de la gouvernance, ce qui est encore très lent et qui n'est pas achevé, mais le mouvement est en cours, de la gouvernance parlementaire européenne vers quelque chose de plus droitier. Voilà, donc ça me paraissait important de souligner cette évolution du mouvement et de comprendre le mouvement identitaire, parce que à partir de là, les critiques qui sont du genre à dire à la solde de l'étranger, c'est passer complètement à côté du problème. C'est une critique qui ne portera jamais à l'égard des identitaires que de reprocher, par exemple, à des patriotes britanniques d'être financés par des nationalistes américains, parce que, et on le voit notamment dans la structure, et c'était dans le discours qui était venu porter J.D. Vance aussi, qui avait fait beaucoup de choc, il y a une vision transoccidentale maintenant. Et donc, dans laquelle les pays finalement sont plutôt vus comme des régions de cette même sphère civilisationnelle qu'autre chose. Et ce se renforce d'autant plus avec l'opposition contre ce qui apparaît comme des blocs civilisationnels comme la Chine, etc. Voilà ce petit point que je voulais faire avec vous aujourd'hui. À bientôt pour de nouveaux formats. N'hésitez pas à pousser, vous abonner et faire sonner la cloche. Et partager, bien sûr. À bientôt, vous laissez pas faire.